Avec la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Encore une élection qui s'achève avec deux partis opposés qui proclament leur victoire.
Alors vous allez peut-être me dire que la démocratie, c'est le conflit, que c'est toujours mieux qu'en Biélorussie ou au Mali, pour ne citer que des exemples récents. C'est pas faux. Mais en tout cas, ce pays tiraillé dont nous parlons ce matin, il se trouve dans les Balkans. C'est l'un des plus petits États au monde, avec à peine plus de 600 000 habitants. J'ai nommé le Monténégro, indépendant de la Serbie depuis 2006, et où, justement, l'opposition pro-serbe proclame depuis quelques heures, et avec elle toute la presse serbe, dont le quotidien Vesti, que, je cite, « le régime monténégrin est tombé ». Le régime à abattre vu de Belgrade, c'est donc la mainmise sur le Monténégro de celui qu'il dirige depuis près de 30 ans, le président pro-occidental Milo Djukanovic, du parti dit démocratique socialiste. Milo Djukanovic qui a été l'artisan ces dernières décennies de l'indépendance monténégrine, bien sûr, mais aussi de son adhésion à l'OTAN et de sa candidature à l'Union européenne, quand l'opposition, elle, voudrait ramener le petit pays dans le giron serbe et plus largement dans l'orbite de la Russie. Et c'est vrai, poursuit le courrier des Balkans, que d'après les résultats encore partiels des législatives d'hier, le camp pro-serbe a de quoi pavoiser. Avec 76% de participation historique au Monténégro, surtout en ces temps de Covid-19, le vote d'hier n'a pas, et c'est du jamais vu, donné de majorité au parti démocratique socialiste du président Djukanovic. 34% des voix pour lui, c'est une contre-performance, tonne le courrier, avant de se faire l'écho des discours de victoire entendus dans le camp adverse. Pour le journal monténégrin Pobjeda, le nouveau parlement penchera bien majoritairement du côté de l'opposition, en imaginant toutefois que celle-ci saura faire l'union des plusieurs petites formations qui se partagent cette majorité.
Et en attendant de voir naître cette hypothétique coalition contre lui, le président Djukanovic a donc beau jeu de proclamer lui aussi sa victoire.
Et c'est ce qu'il fait, hein, confirme le site spécialisé Balkan Insight. Et d'une certaine manière, il a raison de le faire puisque son parti est bien arrivé en tête hier, même si c'est d'une trop courte tête, donc pour lui assurer la majorité seule. Voilà donc comment on se retrouve, dixit le temps de Genève, avec le parti au pouvoir, littéralement au coude à coude avec l'opposition, dans cette cacophonie de lendemain d'élection désormais trop bien connue, où tout le monde assure qu'il a gagné et brandit à l'appui les improbables calculs d'alliances qui vont lui permettre de dominer le futur gouvernement. On devrait y voir plus clair au Monténégro dans les prochains jours, mais en attendant, faut-il s'étonner que ces législatives mènent à une division aussi franche? Eh bien, pas vraiment. À relire l'analyse qu'avait publiée samedi le site Politico Europe sur les enjeux de ce scrutin. La campagne a tourné presque exclusivement autour de questions identitaires et religieuses, avec une opposition qui a basé son programme sur la soi-disant libération nécessaire de la minorité serbe opprimée, avec un soutien très affiché de la puissante église orthodoxe serbe. En face, le camp du président Djukanovic a martelé qu'il fallait parachever l'indépendance du Monténégro vis-à-vis du nationalisme serbe qui menacerait toujours l'existence même du petit pays et sa marche vers l'Europe. Djukanovic a même affiché sa volonté de créer une église orthodoxe monténégrine qui ne serait plus sous l'emprise de sa grande sœur serbe. Une église monténégrine qui pourrait revendiquer la propriété de nombreux lieux de culte à travers le pays en chassant donc les pop pro-serbes. Tous ces enjeux politicaux, religieux, identitaires, conclut Una Adjari pour Politico Europe, ont considérablement tendu la campagne de ces législatives, au moins autant que les accusations de corruption contre le clan Djukanovic. L'homme fort du Monténégro a-t-il été trop loin, en menaçant donc de s'attaquer aux églises de la minorité serbe? Il va falloir encore quelques heures et des résultats définitifs au scrutin d'hier pour le savoir, mais d'ici là, un conseil, gardons un œil sur le Monténégro.
Et jetons un autre œil sur le Liban, cette fois, où Emmanuel Macron arrive ce soir avec une mission quasi impossible.
Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, vous me connaissez, mais c'est Anthony Samrani du quotidien francophone de Beyrouth, L'Orient le Jour. On sait que le président français revient au Liban aujourd'hui et demain pour tenter d'y régler la crise politique qui a suivi l'explosion début août du port de la capitale, alors que depuis des mois au Liban, c'est vrai, la population manifestait pour réclamer la fin du partage du pouvoir entre les différentes forces politiques traditionnelles et confessionnelles. À croire donc l'éclairage signé Anthony Samrani, le docteur Macron vient donc administrer un traitement de choc au Liban, un patient en phase terminale. La France, dernière amie qui voudrait du bien à un Liban en crise existentielle. Un Emmanuel Macron qui se fait fort de mettre tout le monde d'accord sur la composition du nouveau gouvernement. Là voilà donc la mission quasi impossible du chef de l'État français. Car malgré sa bonne volonté, poursuit l'article de L'Orient le Jour, Emmanuel Macron va avoir du mal à faire bouger les lignes, à contrer ses vieilles pratiques politiciennes toujours entre les mêmes acteurs d'une scène politique libanaise qui fonctionne depuis depuis des années déjà sur le principe du consensualisme sur le plus petit dénominateur commun. Emmanuel Macron, en critiquant ouvertement cette classe politique traditionnelle au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth, avait semblé prendre le parti de la rue libanaise qui exige elle aussi le changement. Il espérait sans doute, le président français, une mobilisation de la société civile qui n'est pas venue, il faut bien le dire, pour le moment. Faut-il s'en étonner? Les Libanais demandent à reprendre leurs affaires en main eux-mêmes et pas que ce soit un autre pays qui vienne faire et défaire son gouvernement à sa place. La France ramène aussi, il faut bien le dire, dans ses bagages le FMI et ses ajustements structurels, pas vraiment ce dont rêvent les manifestants anti-austérité de ces derniers mois au Liban. Alors voilà donc pourquoi, d'après Anthony Samrani, la mission que s'est assignée Emmanuel Macron est une mission quasi impossible, avec le risque, en plein centenaire du Grand Liban, que sa visite ne serve, je cite, qu'à constater l'impuissance d'un pays à stopper sa propre chute libre.